Bon, nous continuons notre étude sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 5. Aujourd'hui, nous allons regarder, continuer la série sur notre identité théologique. Alors, on va regarder aujourd'hui quatre caractéristiques de notre identité théologique comme réformée. Donc, une des caractéristiques, c'est historique. La deuxième, confessionnelle. La troisième, théocentrique, et la quatrième, alliantielle. Alors, dans notre leçon précédente, à la leçon 4, on avait identifié trois caractéristiques de notre théologie. D'abord, elle était chrétienne biblique, qu'elle était universelle et qu'elle était aussi évangélique. Aujourd'hui, dans notre leçon, on va présenter quatre autres caractéristiques, soit les caractéristiques historiques, confessionnelles, théocentriques et herméneutiques. Alors, il va nous rester à examiner deux autres caractéristiques de la foi réformée, soit polémique et expérientielle. Donc, ces deux caractéristiques-là seront étudiées dans la prochaine leçon, la leçon 6. Les églises qui s'appellent eux-mêmes réformées impliquent que l'Église fut originellement formée par le Christ lui-même et ses apôtres, en accord avec la parole de Dieu, la Bible, qui graduellement se déforma par de fausses doctrines et des pratiques corrompues, jusqu'à ce que Christ réforme l'Église par sa parole et par son esprit. La théologie réformée a souvent été étiquetée du nom de calviniste. Nous devons rejeter cette appellation parce qu'elle suggère que nous suivons les enseignements de Jean Calvin. Nous précisons que nous ne magnifions pas l'homme et nous ne nous appuyons pas non plus sur l'homme. L'appellation théologie réformée serait davantage appropriée. Nous présenterons les grandes lignes de la théologie réformée à partir de six caractéristiques, six perspectives, qu'on pourrait dire. Donc, historique, confessionnel, théocentrique, herméneutique, et les deux dernières qu'on va voir la semaine prochaine, polémique et expérientielle. Donc, aujourd'hui, on va regarder les quatre premières dans la présente leçon. Donc, la première, c'est la théologie réformée dans sa perspective historique. La théologie réformée est née du renouveau évangélique du 16e siècle en Europe, que nous appelons la Réforme. Après diverses tentatives de réforme de l'Église selon la parole de Dieu, par des théologiens augustiniens de la pré-réforme, tels que John Wycliffe et John Huss. Donc, la réforme a commencé lorsque, par la seule grâce de Dieu, Luther a saisi la justification par la foi seule et a commencé à protester contre un système sacramentel de rituels créés par l'homme et de mérite humain. Les réformateurs se sont opposés aux enseignements et pratiques non bibliques de l'Église, de l'Église catholique de l'époque, tels que les abus papaux, tant dans la théologie que dans la pratique, incluant la conduite immorale par les leaders et la commercialisation de la religion à travers le moyen du système des indulgences qui prétendait dispenser la grâce et qui était offerte par la vente. Donc, un autre enseignement et pratique non biblique, c'est la prétention papale à l'autorité apostolique, voire messianique. La cruelle opposition des papes à la réforme persuada plusieurs réformateurs que le pape était l'Antichrist et l'homme de péché, tel que défini dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, dans le chapitre 2, les versets 3 à 12. Autre chose que les réformateurs s'opposaient, c'est la captivité de la parole de Dieu. On sait que l'Église catholique s'opposait violemment à ce que la Bible soit diffusée au peuple dans leur langue, et aussi qu'il voulait assujettir son interprétation à l'autorité du pape et des évêques, ajoutant à son contenu par l'ajout des livres apocryphes et réduisant sa puissance par une prédication formaliste. Autre chose qu'il voulait combattre, c'est le développement de la vie monastique, avec ses vœux de pauvreté et de chasteté, et son obéissance aux autorités ecclésiastiques plutôt qu'à la parole de Dieu. Autre chose, qu'il devait combattre, la médiation de Marie et des saints. Donc, il y avait la prière à la Sainte Vierge, aux saints et aussi aux morts. Et autre chose, il y avait la confiance dans les bonnes œuvres comme moyen de salut. Donc, ça leur faisait beaucoup de choses à réformer. Les erreurs théologiques et pratiques souillées du catholicisme furent opposées et les cinq solas furent développés, qu'on a vu dans la leçon précédente. Sola scriptura, donc par les Écritures seules. Sola gratia, par la grâce seule. Sola Christus, par Christ seul. Sola fide, par la foi seule. Et soli Deo gloria, pour la gloire de Dieu seul. La réforme du 16e siècle se divisa en trois branches durant les années 1520. Les églises luthériennes, les églises réformées et les églises anabaptistes. Les réformateurs anglais ont d'abord été très influencés par Luther, mais pendant le court règne d'Édouard VI, qui a duré de 1547 à 1553, et aussi le long règne d'Élisabeth Ière, de 1558 à 1603, une forme modérée de théologie réformée est devenue de plus en plus dominante dans l'Église d'Angleterre. De plus, des années 1560 à la fin du 17e siècle, le mouvement puritain a poursuivi une réforme plus approfondie de la prédication, du culte et de la vie quotidienne. Certains puritains se sont séparés de l'Église d'Angleterre et certains de ces séparatistes ont formé des églises baptistes qui ont continué de conserver les enseignements de la plupart des théologiens réformés antérieurs. De nombreuses personnes de persuasion réformée ont émigré d'Angleterre vers les colonies britanniques d'Amérique du Nord, se mêlant à d'autres opinions similaires d'Écosse, des Pays-Bas, de France et d'Allemagne, fuyant souvent la persécution religieuse dans leur pays d'origine. John Ashbratt, B-R-A-T-T, qui a vécu de 1909 à 2000, qui est un historien de l'histoire et du développement du calvinisme en Amérique, estimait qu'en 1776, les deux tiers de la population de ce qui allait devenir les États-Unis étaient affiliés à des églises épousant la théologie réformée. À partir de centres situés en Europe continentale, en Grande-Bretagne et aux États-Unis d'Amérique, la théologie réformée s'est propagée au cours des deux derniers siècles et demi aux nations du monde entier. Alors, on voit le côté historique de la théologie réformée. Deuxième point, on va regarder la théologie réformée dans sa perspective confessionnelle. Alors, ce qu'on entend par confessionnel, c'est les confessions de foi que les chrétiens ont développées pour défendre leur foi et pour faire la promotion aussi de la vérité chez leurs membres. Alors, les églises réformées ont continuellement développé les confessions de foi pour protéger et faire la promotion, c'est-à-dire de leur foi chrétienne biblique. Ils ont toujours reconnu que l'autorité de ces confessions était dérivée directement de la Bible et qu'elles sont toujours subordonnées aux Saintes Écritures. Ces confessions ont guidé les chrétiens réformés dans les devoirs des églises locales, soit l'adoration, le témoignage, l'enseignement, la discipline et aussi la défense de la foi. De l'ensemble des confessions de foi, 7 ont été particulièrement influentes. Alors ici, je dois préciser que on ne peut pas entrer dans le détail de toutes les confessions de foi qui ont été écrites au cours de cette période, mais on va regarder celles qui ont été les plus influentes ou qu'on pourrait considérer comme les plus importantes. Donc, dans les 7, il y a la confession belge, Confessio Belgica, qu'on disait, ça a été entre 1561 et 1619. Ce document contient la confession des Pays-Bas, ou Confessio Belgica, écrite par Guy de Bresse en 1561, et présentée dans sa nouvelle version en français actuelle, parue en 2021. Alors, dans la leçon que ceux qui veulent télécharger les notes vont pouvoir avoir un lien sur lequel ils n'ont qu'à cliquer, et ils vont pouvoir aller lire cette confession de foi-là, qui est écrit dans un français actuel, parce que quand on lit des choses qui ont été écrites au 16e siècle avec du vieux français, pour nous aujourd'hui, ça peut être difficile. Alors, les mots n'ont pas été changés, les idées n'ont pas été changées, cependant, le français a été actualisé de manière à les rendre plus lisibles pour nous aujourd'hui. Alors, cette très belle confession de foi des Pays-Bas fut écrite en 1561 par Guy de Bresse, qui un réformateur qui œuvra énergiquement au service de la parole de Dieu aux Pays-Bas, en Belgique et dans le nord de la France. Deuxième document qui est important, qui a eu beaucoup d'influence et qui continue de l'avoir même aujourd'hui, le catéchisme de Heidelberg, 1563, qui a été alors publié pour la première fois en 1563. Le catéchisme de Heidelberg est utilisé depuis lors par des chrétiens de partout dans le monde. Le catéchisme résume les principaux enseignements de la Bible en 129 questions et réponses faciles à mémoriser. À la fois simple et profond, à la fois concis et complet, le catéchisme est apprécié autant par les jeunes que par les moins jeunes comme l'un des guides les plus clairs, les plus utiles et les plus réconfortants, permettant d'explorer tous les trésors spirituels de l'Évangile. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, comme on peut le lire dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16. Le catéchisme de Heidelberg nous aide à découvrir la puissance incomparable de l'Évangile et à mieux apprécier quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ. Éphésiens chapitre 3, verset 18. Alors là, pour ceux qui ont téléchargé les notes ou qui vont les télécharger, j'ai mis deux liens. Un qui va vous donner vraiment beaucoup plus. Ces deux liens sont importants si vous voulez aller les explorer, parce que le catéchisme de Heidelberg est d'une grande richesse. Alors, les réformés baptistes du 17e siècle l'ont adopté et adapté aussi par le pasteur Hercule Collins, qui a vécu de 1646 à 1702. Juste pour montrer à quel point le catéchisme était important et bien rédigé, c'est qu'un baptiste réformé l'a adopté et a simplement adapté son contenu là où il y avait des désaccords, par exemple sur le baptême des bébés et quelques autres petites choses comme ça. Alors, le catéchisme était tellement bien fait que les réformés baptistes du 17e siècle l'ont adopté et adapté. Troisième document, très important, c'est les canons de Dordrecht, qu'on appelle, qui ont été écrits en 1618. Au cours de l'histoire de l'Église, plusieurs confessions de foi ont été écrites durant une période de controverse théologique. C'est le cas des canons de Dordrecht qui ont été rédigés dans le but de réfuter les erreurs de l'arminianisme et de réaffirmer les grandes doctrines de la grâce souveraine de Dieu. Là, je vous ai mis un autre lien où vous allez pouvoir aller la lire en ligne. Et je vous ai également suggéré un livre qui a été écrit par le pasteur Paulin Bédard, de l'Église réformée de Saint-Georges en Beauce, alors qui s'appelle « Le solide fondement du salut, études doctrinales sur les canons de Dordrecht », un livre très bien fait qui prend le canon de Dordrecht, qui l'explique de long en large. Je ne saurais recommander trop cette œuvre pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment connaître ces choses-là. Le quatrième grand document historique, c'est la confession de foi helvétique, 1566. Il n'est pas exagéré de dire que la seconde confession helvétique est la plus écuménique des confessions de la Réforme. Elle est en tout cas la plus imposante en termes d'autorité de toutes les confessions réformées provenant du 16e siècle. Alors, après avoir été voulu par Frédéric III comme règle de foi des églises réformées du Palatinat, elle a également servi à rassembler les protestants helvétiques suite à la demande formulée par Théodore de Bèze et adressée à Bullinger dans cette même année, d'une confession qui soit commune aux églises réformées de Suisse. Elle a été effectivement reçue par la quasi-totalité de celles-ci. Elle a ensuite été adoptée, ou du moins reconnue, par les communautés réformées de France, d'Écosse, de Hongrie, de Pologne, d'Angleterre et des Pays-Bas. Alors, quels sont les traits distinctifs de cette confession qu'un savant a pu qualifier de véritable chef-d'œuvre dogmatique de la Réforme? On peut souligner tout d'abord un fort christocentrisme. Et bien sûr, il y a d'autres. On ne peut pas étudier tout cela aujourd'hui. Ça dépasserait de beaucoup le cadre de notre étude. Alors, je vous ai mis aussi dans un lien, pour ceux qui vont télécharger des... et un lien dans lequel vous allez pouvoir aller la lire en ligne. Alors, on dit de cette seconde confession helvétique de 1566 qu'elle est une exposition simple et abrégée de la doctrine chrétienne dans sa pureté. Elle a été écrite par Henri Bullinger. Alors, une nouvelle traduction en français moderne de Donald Cobb. Alors, je vous ai mis les liens, vous pouvez aller lire ça encore là, ça aide beaucoup de lire ça en français moderne. Alors, on dit de cette seconde confession de foi helvétique qu'elle est un véritable manuel de théologie réformée. Alors, c'est important pour que ceux qui voudraient se familiariser avec tous les concepts contenus dans la théologie réformée. Cinquième document, celle-là est très importante. La confession de foi de Westminster de 1646. Encore là, je vous ai mis en lien un endroit où vous allez pouvoir aller la lire en ligne. Et alors, cette confession de foi de Westminster de 1646 affirme une vision réformée et presbytérienne de la foi chrétienne et s'inspire de plus d'un siècle de réflexion réformée. La confession reste un point culminant de la formulation théologique réformée, commençant par une déclaration sans précédent de la nécessité du canon, de l'autorité divine, de l'auto-authentification, de la suffisance, de la clarté, de l'inspiration de Dieu, de l'interprétation et de la suprématie de la Bible sur toutes les autres autorités religieuses. La confession a été adoptée pour être utilisée dans les églises congrégationnistes sous le nom de Déclaration de Savoie en 1658 et ensuite a été modifiée par des théologiens baptistes particuliers, on entend par théologiens baptistes particuliers, des théologiens baptistes calvinistes, et adoptée sous le nom de Second London Baptist Confession of Faith. Alors, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui, la Confession de foi baptiste de 1689, de Londres de 1689. Sixième document, le grand catéchisme de Westminster. Alors, à partir de la Confession de foi, on a fait un grand catéchisme qui était pour expliquer la Confession de foi aux adultes presbytériens de l'époque. Et alors, La doctrine de la confession de foi de Westminster, elle était le grand catéchisme était plus élaboré que le petit catéchisme de Westminster, qui lui avait été fait surtout pour les enfants. Son exposition des 10 commandements procure une bonne compréhension de l'éthique chrétienne. Alors, encore là, je vous ai mis un lien, vous allez pouvoir aller le lire en ligne. Ce sont des documents qu'on a intérêt à connaître de nos jours, parce qu'il y a beaucoup de nos confessions de foi réformées qui ont été inspirées, du moins dans les très grandes lignes, de ces documents-là. Et un autre document de très grande importance qui a eu une énorme influence dans le monde, c'est celui du Petit Catéchisme de Westminster, 1648. Alors, dans ce document-là, ça résume les enseignements de la confession de foi de Westminster et les principes de la loi morale de Dieu tels qu'ils se trouvent dans les 10 commandements, par le moyen de questions et réponses concises et nettes, adaptées à l'enseignement et à la mémorisation. Il s'ouvre sur la déclaration peut-être la plus célèbre de la théologie réformée jamais faite. La fin principale et la plus haute de l'homme est de glorifier Dieu et de jouir pleinement de lui pour toujours. Il a été adopté en 1693 par Benjamin Keach à l'usage des baptistes. Alors, on voit ici l'inter-influence que ces documents-là ont eu des presbytériens aux baptistes. Souvent, les baptistes ont pris les documents des presbytériens et les ont adoptés à leur croyance. Alors, encore là, j'ai mis un lien. Vous allez tout pouvoir aller lire ça en ligne. Je ne saurais trop vous recommander de le faire. Prendre le temps. On n'est pas obligé de tout faire les sept documents en même temps. Mais on peut en lire un une fois de temps en temps. Ça va sûrement vous fortifier et vous enrichir de comprendre comment historiquement les chrétiens ont défendu leur foi et ont fait la promotion de la vérité. Alors bien sûr, nous, étant de persuasion réformée, mais avec la perspective baptiste, nous ajoutons une autre confession de foi importante, influente et répandue dans le monde. Alors bien sûr, M. Bickey, qui est un presbytérien, n'a pas parlé de celle-là, mais nous, on considère que c'est aussi un document important. Alors, je mets aussi un lien dans lequel vous allez pouvoir aller télécharger un document en PDF qui a été justement assemblé par l'Association des Églises réformées baptistes du Québec. Alors, bien sûr, la théologie réformée est une théologie qui a adopté une ou plus des confessions ci-haut mentionnées. Faisons-nous un devoir de bien les connaître et de bien les appliquer dans nos vies. Ce sont des boussoles théologiques qui nous guident et nous protègent. On est rendu au troisième point, la théologie réformée a une perspective théocentrique. Alors, les historiens et les théologiens ont souvent échoué dans leur tentative d'identifier un dogme central dans un système de théologie sur lequel tous les autres thèmes dépendent. La raison est fort probablement que la révélation de Dieu est d'une telle richesse, contient une telle richesse, qu'elle défie l'idée de capturer l'esprit de tout un système de théologie par une seule vérité, qui l'imprègne, la façonne ou l'anime. Certains théologiens ont déclaré que toute la théologie réformée tourne autour de la doctrine de la prédestination. Cependant, la prédestination ne nous renseigne pas sur l'élan le plus profond de la pensée réformée. Le cœur de la théologie réformée est la connaissance du Dieu trinitaire. Pour cette raison, la théologie réformée est souvent appelée théologie théocentrique. Son point de départ est le point de départ de la Bible, Genèse 1:1, au commencement Dieu. Il se réjouit de la déclaration de notre Seigneur qui a dit « C'est la vie éternelle qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé » dans Jean 17, verset 3. Le grand théologien Benjamin Warfield disait « Le calviniste, en un mot, est l'homme qui voit Dieu Dieu dans la nature, Dieu dans l'histoire, Dieu dans la grâce. Partout, il voit Dieu dans son pas puissant. Partout, il sent le travail de son bras puissant et le battement de son cœur puissant. La magnifique obsession du chrétien réformé mûr est de connaître Dieu par Jésus-Christ. On va aller regarder trois passages, Philippiens chapitre 3, verset 8. « Et même, je regarde toutes les choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, verset 6. « Car Dieu, qui a dit, « La lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Et également, Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Donc la moelle de la théologie réformée est la souveraineté de Dieu, non pas en tant que fatalisme impersonnel, mais la souveraineté personnelle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la souveraineté consciente, sage et aimante de notre Sauveur trinitaire. Du point de vue théologique, la théologie réformée respire l'esprit de la gloire divine et ne trouve rien de plus savoureux ou agréable que Dieu lui-même. Quatrième point qu'on va regarder, la théologie réformée dans sa perspective alliantielle. Alors, l'herméneutique, qui est la science de l'interprétation biblique, n'est pas simplement un ensemble de compétences littéraires et linguistiques, mais une sorte de sagesse spirituelle. La théologie réformée nous rend sages dans l'interprétation de la Bible en nous informant de l'un de ses principes structurels, la fidélité de Dieu à ses alliances. On peut soutenir que la théologie réformée est la théologie de l'alliance, non pas parce que l'alliance est sa plus grande vérité et son objectif central, seul Dieu l'est, mais parce que l'alliance est le cadre structurel qui façonne toute la révélation biblique. Robert Rollock, qui a vécu entre 1555 et 1598, a dit « Toute la parole de Dieu appartient à des alliances, car Dieu ne dit rien à l'homme sans l'alliance. » Beaucoup d'ouvrages sur la théologie de l'alliance, qu'on appelle en anglais la « covenant theology », ont été écrits au cours des siècles et par des leaders de différentes dénominations, presbytériens, baptistes, congrégationalistes, etc. Tous s'accordent pour voir dans la Bible une structure d'interprétation basée sur les alliances. Cependant, des divergences importantes existent entre les différentes approches. Le sujet est complexe et nécessite une étude sérieuse des arguments de part et d'autre. Les points divergents sont l'existence de l'alliance de Dieu avec Adam. Alors certains vont contester l'existence de que certains ont appelé l'Alliance des œuvres ou le Covenant of Works. Aussi, il y a les différences dans la nature des différentes alliances. Les presbytériens affirment l'idée d'une seule alliance avec deux administrations, tandis que les baptistes défendent l'idée de deux alliances différentes, l'ancienne et la nouvelle, et aussi d'autres différences. Nous n'entrerons pas dans les détails de tous ces arguments aujourd'hui. Nous désirons simplement présenter quelques ouvrages qui peuvent aider à la compréhension de la perspective baptiste de la doctrine des alliances divines. Nous vous présentons d'abord un ouvrage en français du pasteur Pascal Denoux de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme au Québec, qui s'appelle « Une alliance plus excellente ». Alors, je vous ai mis encore là le lien. Vous pourrez... Alors, si vous êtes intéressé par la théologie des alliances et si vous désirez saisir la distinction entre la théologie réformée pédo-baptiste et la théologie réformée baptiste, ce livre est pour vous. Il compare ces deux points de vue à partir de leur contexte original du 17e siècle en examinant l'alliance des œuvres, l'alliance de la grâce, l'ancienne alliance, incluant une section spécifique sur les alliances abrahamiques et mosaïques, et la nouvelle alliance. Alors, je vous ai mis le lien où vous pourriez commander cet ouvrage-là. Nous vous recommandons également deux autres ouvrages en anglais sur le sujet de la doctrine de l'alliance dans une perspective réformée baptiste. C'est des livres récents, très récents. Alors, il y a l'ouvrage du pasteur américain Samuel Renihan, intitulé « The Mystery of Christ, His Covenant and His Kingdom ». Alors, ce sont des livres qui sont disponibles chez Founders, un site où j'ai mis le lien également. Alors, bien sûr, si vous lisez l'anglais, je ne saurais trop vous recommander celui-là, parce qu'il m'a été recommandé fortement par quelqu'un qui l'a lu et qui dit qu'il aide beaucoup à la compréhension des doctrines de la grâce. Et le deuxième ouvrage est celui du pasteur réformé baptiste américain Richard Barchilos, qui s'appelle « Getting the Garden Right », qui est aussi disponible chez Press. Alors, vous avez encore le lien dans les notes. Alors, plusieurs lecteurs recommandent la lecture de ces deux ouvrages-là, celui de Samuel Renihan et celui de Richard Barchilos, parce qu'ils sont complémentaires. Alors, quelles sont les applications qu'on peut faire à partir de ce texte, de cette étude qu'on fait aujourd'hui? Pour résumer, on peut dire que la théologie réformée doit être examinée de plusieurs perspectives. La première, historique, comme un mouvement d'église chrétienne s'éloignant de l'erreur du catholicisme romain médiéval vers une direction évangélique cohérente. Être réformé, c'est faire partie d'un mouvement historique international guidé par l'Évangile. Donc, une autre perspective, c'est celle confessionnelle, comme un système de vérité résumé dans les normes doctrinales des diverses confessions de foi réformées historiques. Être réformé, c'est s'engager à retenir la vérité apostolique. Comme on peut le lire dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 13, « Retiens dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Troisième perspective, c'est celle du théocentrique, comme une vision de la vie dominée par la gloire du Dieu souverain, aimant et trinitaire. Être réformé, c'est craindre le Seigneur et vivre une vie centrée sur Dieu afin de le glorifier et de jouir de sa présence pour l'éternité. Et dernière perspective, c'est celle de la perspective alliantielle, donc une perspective herméneutique. Donc, alliantielle, c'est vraiment la question de l'interprétation générale des Écritures. C'est en tant qu'approche de la Bible, est celle qui reconnaît le déploiement de l'alliance de grâce et qui structure la révélation de Dieu à travers l'histoire. Être réformé, c'est reposer sa foi dans les promesses du Dieu fidèle, du Seigneur de l'Alliance. Attachons-nous au Seigneur plus que jamais et aux outils qu'il nous a donnés pour nous aider à demeurer fidèles par sa grâce et pour sa gloire. Amen.